Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La Bible, pour la plupart des hommes et des femmes de notre temps, il s'agit là d'un livre d'histoire qui finit au mieux sur une étagère. Quand on est croyant et pratiquant, on entend des passages de la Bible lors de la messe du dimanche, ou plus encore si l'on a l'habitude de prendre un temps de prière personnelle. Mais est-on pour autant persuadé que la Bible a quelque chose à nous dire, et spécialement l'Ancien Testament ? Ces livres, ces histoires d'un autre âge peuvent-elles nous rejoindre ? La preuve que oui, avec cette prochaine conférence à l'Institut catholique de Toulouse sur les prophètes, démonstration. L'homme croyant selon les prophètes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Les prophètes, il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament, avec comme invité Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse, formateur au séminaire et séminaire de Toulouse et enseignant à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez vu, lourde responsabilité, hein, vous devez nous aider à sortir les écritures de nos étagères et à nous donner la preuve que c'est une parole vivante. Mais c'est votre métier, n'est-ce pas ?
Une bonne occasion, j'ai aussi sorti ma Bible de son étagère.
C'est donc le titre d'une prochaine conférence. J'ai fait simple, l'homme croyant selon les prophètes. Première conférence ce jeudi 14 février à 20h30, ça sera la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Et la suivante sera donc le 19 février prochain à 20h, salle Léon XIII à l'Institut catholique de Toulouse.
C'est 20h30, je crois, à Toulouse.
20h30 à Toulouse. On corrigera ça donc sur le site internet. Les prophètes, je propose qu'on commence par essayer de faire une promenade dans les Écritures ce matin, et particulièrement parmi les prophètes. Alors les prophètes, ça fait en fait, c'est un peu long, ça fait du monde. J'aurais une question pour commencer, c'est une de mes spécialités. Est-ce que quand vous dites que vous êtes un grand spécialiste des prophètes, et en l'occurrence du prophète Jérémie, les gens ouvrent des yeux tout ronds, Père Cyprien Comte?
Alors, je ne dis pas que je suis un grand spécialiste des prophètes, mais j'ai la chance de les enseigner depuis quelques années, donc je les découvre un petit peu mieux chaque année, et notamment grâce aux étudiants. Mais à vrai dire, les gens parfois se disent qu'ils ne connaissent rien, et puis si on leur dit les prophètes, finalement, ça leur dit quelque chose. Et quand on dit Jérémie, les gens pensent à des plaintes, vous savez, les fameuses Jérémiades. Et j'ai eu la chance de fréquenter donc les écrits de Jérémie et de ses successeurs, et à vrai dire, l'image qu'on donne de lui n'est pas tout à fait juste, mais c'est déjà une bonne porte d'entrée.
Autre question peut-être d'introduction, est-ce que vous pouvez nous dire la place qu'ont les prophètes dans d'autres traditions religieuses, dans l'occurrence je pense au judaïsme? Que garde-t-il des prophètes que nous avons dans nos Bibles ?
Alors, la Bible juive, c'est aussi la Bible des chrétiens pour la majorité, c'est-à-dire que 80% de notre Bible chrétienne, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, donc c'est la Bible juive avec quelques subtilités qu'on pourrait préciser. Mais donc, c'est dire que nos prophètes sont les prophètes du judaïsme. Et un certain nombre d'entre eux ont une importance remarquable. Et par exemple, jusqu'aujourd'hui, dans un certain nombre de circonstances, les Juifs gardent une place à table pour le prophète Élie qui doit revenir. Et donc, c'est la preuve que leur mémoire...
Ou lors du Shabbat.
Alors,
en général,
je ne sais pas tous les détails. Il faudrait vérifier quels sont les jours. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est pour certaines grandes fêtes? En tout cas, ça correspond aussi à l'annonce d'un autre prophète, puisque le prophète Malachi, lui, termine son livre en annonçant le retour du prophète Élie. Et d'ailleurs, l'évangile, j'allais dire surfe, si je puis dire, sur cette espérance, puisque Jésus dit à un moment, mais... le prophète Élie qui doit venir, mais c'est lui, c'est Jean-Baptiste qui marche devant le Seigneur.
Dernière question d'introduction, vous qui les fréquentez beaucoup, les prophètes, qu'ont-ils à nous dire, je pense peut-être aux deux types d'auditeurs que l'on a, ceux qui connaissent Radio Présence, qui s'interrogent sur la foi chrétienne mais qui n'ont pas forcément la foi ou de pratiques religieuses, et puis ceux au contraire qui essayent de cheminer à la suite du Christ, qu'ont-ils de particulier à nous dire ?
Il y a dans la littérature prophétique, d'abord dans les paroles des prophètes, et puis dans tout ce qui fait les livres qui parlent des prophètes et les livres des prophètes, il y a une richesse extraordinaire au niveau du style, de la poésie, mais aussi, je pourrais dire, de l'espérance. On y trouve d'ailleurs un certain nombre de repères qui sont transposables pour notre vie, et je pense en particulier aux questions éthiques. On cite volontiers les prophètes pour ce qui est de la protection des pauvres, pour la justice sociale, et il est vrai que dans un certain nombre de cas, nous ferions bien de les relire.
On pourra en parler, oui, pour ceux que l'on citera, entre autres le prophète Jérémie. Quand est-ce que commencent les prophètes? Si on devait dire le début et la fin de la vie prophétique dans les Écritures, on a en tête Jean-Baptiste, peut-être pour un certain nombre d'auditeurs, donc que l'on dit être le dernier des prophètes. Faut-il remonter jusqu'à Abraham, Moïse? Quel est le premier prophète dans les Écritures?
Alors, c'est difficile à dire. La Bible attribue le titre de prophète à Abraham, et donc quand on examine la chronologie biblique, ça nous amènerait autour de 1800 avant Jésus-Christ. Mais les historiens des religions nous disent qu'on trouve des phénomènes de type prophétique dans d'autres cultures parfois plus anciennes encore. À vrai dire, les spécialistes de la Bible sont assez d'accord pour dire que... D'après nos connaissances, le phénomène prophétique tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou ce que nous identifions comme le phénomène du prophétisme, commencerait plus tôt et de manière un peu plus précise avec le grand prophète Samuel. Alors peut-être que les auditeurs le savent, Samuel est celui, d'après la Bible, qui a donné l'onction au roi Saül et ensuite au roi David, et donc nous sommes à la fin du 11e siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà pour le début du phénomène prophétique, donc comme on le considère proprement de nos jours,
oui,
voilà, proprement dit, si l'on peut dire.
Quelle différence en fait, parce que vous disiez qu'il y avait des prophètes aussi dans d'autres cultures, donc on imagine que derrière ces prophètes, c'est peut-être ce qu'on peut appeler nous aujourd'hui des devins ou des...
Alors tout à fait, il y a des devins, il y a des gens qui pratiquent la divination de différentes façons, et on pense par exemple à l'enseignement tiré de tablettes qu'on a trouvées lors de fouilles archéologiques en Mésopotamie dans le royaume de Mari. Et donc nous sommes aux alentours du 18e siècle avant Jésus-Christ, avec des porte-paroles de rois ou de divinités qui ont donc en quelque sorte un rôle prophétique. Mais à vrai dire, c'est un petit peu différent de ce que nous connaissons et ce que les juifs et les chrétiens appellent prophète, encore qu'il y ait des parentés. Est-ce que nous disons un mot aussi de la fin du prophétisme, si je puis dire?
Si, je vous
Alors, dans l'Ancien Testament, on dirait que après le retour du peuple juif, qui termine donc son séjour à Babylone, donc à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, à partir de l'an 538.
Ce qu'on appelle l'exil.
C'est ça, l'exil à Babylone se terminant. On a encore une activité prophétique au moment du retour de l'installation des Juifs, donc en Judée, dans la région de Jérusalem et dans la diaspora. Mais petit à petit, il semble qu'il y a moins ou il n'y a plus de prophètes, selon les mots de la Bible. Sans doute pour différentes raisons que les historiens des religions arrivent à préciser. Mais vous avez raison de parler de Jean-Baptiste, puisque à l'époque de Jésus... Il y a toutes sortes d'espérances, notamment en raison de la situation politique difficile, et donc au tournant, au début du 1er siècle, on a beaucoup d'espérances, les gens attendent un sauveur, les gens attendent un messie, surtout quelqu'un qui va les délivrer de l'occupation romaine. Et dans ce contexte apparaissent un certain nombre de prophètes, ou en tout cas on se souvient des prophètes d'autrefois qui annonçaient un souverain, qui annonçaient un libérateur puissant, et dans certains textes aussi un homme plein d'humilité et un homme souffrant. C'est dans ce contexte que Jésus fait son apparition et que beaucoup de gens le considèrent comme un prophète, mais même Jean-Baptiste lui-même, qui marchait devant Jésus, a été considéré effectivement comme le dernier de ceux qui ont... préparer le chemin pour le Seigneur, comme dit l'Évangile.
Alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un siècle d'or chez les prophètes autour du 8e siècle. On en parlera peut-être quand on parlera du prophète Isaïe en deuxième partie d'émission, ce que vous allez trouver à illustrer le propos de votre conférence, donc l'homme croyant selon les prophètes par deux passages des prophètes, Isaïe et Jérémie, enfin deux passages à chaque fois. Mais j'avais quelques questions autour de la place des prophètes et de leur relation au pouvoir. Y a-t-il, on va dire, une relation particulière au pouvoir? C'est vrai que c'est devenu presque une expression populaire aujourd'hui. On imagine que les prophètes sont souvent ennemis des gens établis et que leur voix a quelque chose de tranchant. Qu'en était-il dans l'Ancien Testament?
Eh bien, c'est clair, les prophètes n'ont pas leur langue dans leur poche. On peut dire ça, au minimum. Et de temps en temps, quand ils s'approchent du roi ou quand le roi les consulte, eh bien, il en a pour son argent, si vous permettez cette familiarité. C'est-à-dire qu'on peut lui annoncer des choses tout à fait déplaisantes. Mais il serait erroné de penser qu'il en va toujours ainsi. À vrai dire, le prophète Samuel, on l'a vu, fait les premiers rois en Israël, et il sera d'ailleurs encore proche de
Saül.
C'est-à-dire que c'est lui qui leur donne l'onction qui fait d'eux des rois. On se rappelle
De Dieu, du coup.
Voilà, l'onction qui vient de Dieu. Notamment, on se rappelle l'épisode de Samuel qui part à Bethléem parce que le Seigneur lui a dit « Va et tu trouveras parmi les fils de Jessé de Bethléem un roi, c'est celui que j'ai choisi pour mon peuple. » Et il va trouver le dernier petit frère qui était au champ et qui s'appelle David. Et on a cette belle histoire dans le premier livre de Samuel. On trouve d'autres prophètes qui sont proches des rois, et puisqu'on parlait de David, c'est le prophète Nathan qui, je crois que c'est dans le deuxième livre de Samuel, alors si les auditeurs veulent regarder, ils pourront ensuite lire dans leur Bible, c'est le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, où le prophète Nathan vient faire un reproche à David d'une manière extrêmement percutante. Puisque David, en fait, a pris la femme d'un de ses officiers qui était parti à la guerre, vous vous souvenez sans doute de cette histoire, c'est la belle Bethsabée qui sera la mère plus tard du roi Salomon. Et alors, David a commis donc ce forfait non seulement de prendre la femme de son soldat, mais en plus, il a ensuite fait tuer le soldat. Je passe sur les détails, mais le prophète Nathan vient à la rencontre de David et lui raconte une parabole. C'est l'histoire de la fameuse brebis qu'un riche a prise chez son voisin pour nourrir un invité de passage. Et alors, en entendant cela, David entre dans une colère noire et il dit, en pensant à la parabole, il dit « Cet homme mérite la mort ». Et Nathan lui dit « Mais cet homme, c'est toi ». Et il est en train de lui parler non pas d'une histoire de brebis et de repas, mais du double forfait qu'il a commis. Donc voyez, ceci pour vous dire que les prophètes restent proches du pouvoir, dans ce cas précis, comme dans beaucoup d'autres, pour remettre à leur place les souverains, mais aussi quelquefois pour les conseiller. Et nous verrons tout à l'heure avec Isaïe au chapitre 7 que les prophètes veulent souvent fortifier le roi et l'aider à tenir bon, à prendre les bonnes décisions.
Y a-t-il une différence notable justement avec les prophètes des, on va dire, païens? Je ne sais pas si l'expression est ajustée, mais
oui.
ces prophètes-là avaient-ils un rapport au pouvoir différent?
Il semble bien qu'en effet, là réside une des grandes différences entre les prophètes d'Israël et de Juda, et puis les prophètes païens. Donc, par exemple, puisque ce phénomène est bien documenté, par exemple en Mésopotamie à Marie, on voit les prophètes du monde biblique contester le roi, alors qu'en général les autres dans le monde païen sont plutôt des prophètes de cour, et donc ils sont sinon à la botte du souverain, en tout cas ils vont plutôt le soutenir dans sa politique. Et à vrai dire, les prophètes bibliques ont une autre particularité dont nous n'avons pas parlé, c'est que souvent ils parlent des actions cultuelles, de la manière d'offrir des sacrifices, de prier le Seigneur, en disant, non pas qu'il faut arrêter, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ils disent que le culte ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas d'une véritable conduite morale, en un mot, du respect de l'Alliance. Alors que ça, chez les prophètes païens, on a plutôt l'impression que ce n'est pas leur problème. Même on a beaucoup de prophètes païens qui encouragent le culte, ce qui, chez les prophètes bibliques, n'est pas la première préoccupation.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de la place de la parole? J'ai cru comprendre que ce qui traverse donc les prophètes ou ce que les prophètes disent de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais peut-être en tout cas c'est la foi des chrétiens et des juifs en l'occurrence pour le monde, c'est tout d'un coup un Dieu qui non seulement s'est révélé, a dit qu'il était l'unique Dieu, mais en plus un Dieu qui parle aux hommes. Est-ce ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire ce que l'on croit, c'est qu'en fait, et ce que l'on lit ou l'on entend parfois dans la liturgie, c'est Dieu qui s'adresse vraiment à des hommes, et ces hommes sont chargés de parler à la place de Dieu ?
Eh bien, j'ai envie de vous poser une question, si vous permettez. C'est-à-dire, comment est-ce que le lecteur, dans la liturgie, par exemple du dimanche, à la fin de la première lecture et de la deuxième lecture, comment est-ce qu'on conclut la lecture ? On dit « parole du Seigneur ». Et les gens savent presque automatiquement, ceux qui ont l'habitude de l'Église, ce qu'on répond. Mais en tout cas, cette expression « parole du Seigneur », c'est une citation des prophètes. Alors je ne sais pas combien de fois dans l'ensemble des livres prophétiques on trouve cette expression « parole du Seigneur », mais elle est presque une ponctuation en fait des livres prophétiques. Et on pourrait trouver un certain nombre d'autres expressions. « Ainsi parle le Seigneur » ou encore « la parole du Seigneur fut adressée à un tel ou à un tel » ou « me fut adressée ». On voit cette puissance de la parole de Dieu qui vient faire irruption dans une vie, quitte parfois à contraindre presque l'homme, la femme qui l'entend, à se mettre en route. On voit Jonas, par exemple, qui reçoit la parole de Dieu. Il fonce, même si lui, qui est un prophète désobéissant, c'est d'ailleurs assez désopilant, Jonas part du mauvais côté. Mais on trouve très souvent, en tout cas chez les prophètes, vraiment cette urgence. Il y a un livre qui s'appelle comme ça d'ailleurs, l'urgence prophétique. Quand Dieu a parlé, on ne peut pas ne pas prophétiser. Et le prophète Amos compare même cet impératif de parler à la peur ressentie par quelqu'un qui entend rugir un lion. Il dit ceci, « Un lion a rugi, qui ne craindrait ? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait ?»
On va faire une première pause, Père Cyprien Comte. Je rappelle, votre conférence est donc le 14 février prochain, d'abord à Rodez, à la Maison diocésaine Saint-Pierre, à 20h30, et le 19 février prochain, même horaire, à la salle Léon XIII, à l'Institut catholique de Toulouse. On vous retrouve après pour parler du prophète Isaïe. Et alors, mettez-nous en bouche, quelle est la fine pointe du propos que l'on va avoir à propos du prophète Isaïe, chapitre 7.
Isaïe 7, alors entre autres, hein, parce que le chapitre est riche, mais ce sur quoi je voudrais insister avec vous ce matin, c'est il faut croire en Dieu pour tenir bon.
On vous retrouve tout de suite.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'homme croyant selon les prophètes, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec ce matin comme invité Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse, formateur au séminaire interdiocésain de Toulouse et enseignant à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Père Cyprien Comte, il y a combien de séminaristes au séminaire interdiocésain de Toulouse ?
Alors actuellement dans la maison il y a 37 séminaristes et cette semaine je dois dire que nous avons aussi la chance d'avoir nos 13 diacres qui devraient être ordonnés prêtres sans trop tarder dans les mois qui viennent et qui sont aussi là pour la semaine mensuelle de formation. Et puis nous avons 6 séminaristes en stage soit dans la région soit à l'étranger.
Interdiocésain, ça veut dire donc que ça couvre combien
alors,
de diocèses ?
Nous travaillons en fait habituellement pour 16 15, ou 17 diocèses, et notamment ceux des deux provinces ecclésiastiques de Toulouse et de Montpellier.
Plus des îles, si j'ai...
Ah, nous avons la chance de recevoir les séminaristes de Guadeloupe depuis une cinquantaine d'années, et depuis quelques mois seulement, ceux de Martinique aussi.
Et voilà, ça fera l'objet d'une autre émission, même si on en parle de temps à autre à cette antenne. Vous nous proposez donc de plonger dans le chapitre 7 du prophète Isaïe. Alors là, j'en entends certains qui se disent « Ouh là là, ça va devenir pointu ». Si on faisait d'abord un petit exercice d'introduction, qui est Isaïe ? C'est donc, si je ne me trompe pas, un des grands prophètes du fameux siècle d'or. C'est peut-être même le plus connu hein, de l'Ancien Testament. Qui était-il ?
Alors Isaïe, que les chrétiens, surtout les catholiques, appellent parfois le cinquième évangéliste, parce qu'il a tellement annoncé le Messie. Et Isaïe est un aristocrate, sans doute, de la bonne société donc de Jérusalem, donc la capitale du royaume du Sud, le royaume de Juda, au 8e siècle, à l'époque où le royaume d'Israël, le royaume du Nord, est en train de tomber, de disparaître sous les coups de l'Empire assyrien, puissant voisin du Nord. Isaïe est un homme passionné de la sainteté de Dieu, et je pense que la plupart des auditeurs ont déjà entendu ce passage biblique, peut-être même il n'y a pas très longtemps à l'église, où Isaïe reçoit son appel, pourrait-on dire, alors qu'il a une vision dans le temple de Jérusalem, et il voit la gloire du Seigneur, la fumée qui remplit le temple, et des séraphins qui se tiennent de part et d'autre de Dieu, et qui crient « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Isaïe est le prophète de la sainteté de Dieu. Ah, il a évidemment bien d'autres caractéristiques, et là nous parlons de la première grande partie du livre d'Isaïe qui date sans doute pour une bonne partie de ce 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on parle des chapitres 1 à 39 du livre d'Isaïe, ce qui fait un corpus assez important et très très riche. En fait, on a un certain nombre de textes dans l'oreille.
Voilà, on peut dire aussi que le prophète Isaïe a été probablement écrit par plusieurs personnes, plusieurs Isaïe même peut-être, parce que son livre court embrasse près de deux siècles, c'est ça ?
Ben c'est vrai que la fin du livre, d'après l'avis des spécialistes, ne peut pas avoir été écrite à l'époque du prophète Isaïe historique. Et comme on arrive au 6e siècle, vous comprenez bien qu'il faut attribuer plusieurs auteurs à cet unique recueil de trois grandes parties. On raconte d'ailleurs une petite histoire, si vous permettez. C'est un lecteur de la Bible, un auditeur de Radio Présence qui arrive au paradis et qui dit à Saint-Pierre, j'ai entendu à la radio qu'il y avait plusieurs Isaïe et j'aimerais bien que vous me présentiez Isaïe. Et donc Saint-Pierre invite la personne à s'asseoir et dit on va vous l'appeler tout de suite. Voilà. Donc on entend que derrière, là dans le paradis, c'est une histoire, hein, c'est pas dans la Bible. On appelle donc Isaïe, Isaïe. Et là, quelques minutes plus tard, l'auditeur de Radio Présence voit un groupe de 5, 10, 15 personnes peut-être qui arrivent. Et devant son air ébahi, Saint-Pierre lui dit « Mais rassurez-vous, ils ne sont pas tous là. Et si vous voulez, on a encore au moins deux groupes. »
Alors, si on entre dans le chapitre 7, c'est donc une intervention donc, du prophète Isaïe auprès donc du de je vais y arriver du roi Aram.
Du roi Akaz,
excusez-moi. Allez, je vais vous laisser l'introduire parce que je pourrais citer des passages, mais je sens que je vais ramer, comme disent les jeunes.
Si l'auditeur veut vérifier dans la Bible que nous disons vrai, donc nous sommes dans le livre du prophète Isaïe. Donc dans les Bibles catholiques, les prophètes sont dans le troisième tiers de l'Ancien Testament, en gros. Et Isaïe est le premier d'entre eux. Isaïe, au chapitre 7, donc les premiers mots, c'est « autant d'Akaz ». Et puis il y a une liste de noms, de rois, et puis on parle du roi d'Aram, c'est-à-dire de Syrie, on parle du roi d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord, et de Jérusalem, qui est la capitale du royaume du Sud. Isaïe, lui, prophétise, je le rappelle, dans le royaume du Sud. Voilà l'époque, et c'est une époque de conflit militaire.
Donc ça veut dire déjà qu'il faut dire que la Terre Sainte, enfin, ce qu'on appelle la Terre Sainte aujourd'hui, était divisée en deux. Le royaume du Nord et le royaume du Sud,
Alors, à vrai dire, c'est ça. En gros, l'Israël d'aujourd'hui, mais c'est vraiment à gros traits, est coupé un petit peu au nord de Jérusalem par une ligne presque horizontale. Vous avez au nord le royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord, et au sud, le royaume de Juda, royaume du Sud. La capitale d'Israël s'appelle à l'époque Samarie. C'est la fin du royaume d'Israël, hein, les dernières années. Et la capitale du royaume du Sud s'appelle Jérusalem, bien connue.
Alors, donc, ce passage, c'est Dieu, donc Yahvé, qui invite Isaïe à prophétiser. La personne à qui il s'adresse, c'est donc le fameux Akaz, roi à l'époque de ce royaume. Quel est, le propos, avant de rentrer un peu dans le détail de ce passage ?
À vrai dire, Akaz est face à une menace militaire. Alors souvent, pour comprendre les textes bibliques, il faut faire un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie, c'est ce que nous faisons en quelques instants. Akaz a refusé de s'allier avec un de ses voisins, et du coup, le voisin le menace. Et on appelle ce conflit la guerre Syro-Éphraïmite, puisque vous avez donc une coalition entre le roi d'Aram, qui est cité donc dans le premier verset du chapitre 7 d'Isaïe, donc Isaïe 7:1, le roi d'Aram, roi de Syrie, s'allie avec le roi d'Israël pour une expédition punitive, puisque Jérusalem et le roi Akaz n'ont pas voulu leur prêter main forte dans un autre conflit. Et donc on est dans le contexte d'une forte inquiétude. Il faut savoir que le royaume de Juda, et d'ailleurs aussi le royaume d'Israël, ne sont pas des superpuissances à l'époque déjà, et qu'ils sont sujets à des invasions, à des conflits. Et comme de toute façon il y a aussi la saison des campagnes militaires, on sait qu'à partir du printemps et pendant l'été, et sans doute un petit peu aussi pendant l'automne, on va avoir un certain nombre de combats de manière assez régulière.
La superpuissance étant les Assyriens.
Alors en l'occurrence, au nord, nous avons l'empire assyrien, qui est l'empire qui couvre la Mésopotamie, si vous voulez, et dont la capitale la plus célèbre sera Ninive. Et il faut dire aussi, même si on n'en parle pas dans notre texte, que nous avons une autre superpuissance au sud qui essaye aussi d'étendre sa toile sur la région, et c'est l'Égypte. Mais en l'occurrence, là, nous parlons des voisins du Nord, et même de deux types de voisins du Nord qui menacent Israël et qui menacent Juda.
Alors, quel est que dit Yahvé à travers son prophète dans ce passage ?
Alors, le Seigneur dit à Isaïe, ça c'est le verset 3, « Sors au-devant d'Akaz », un petit peu plus loin, au verset 4, « Tu lui diras, prends garde et calme-toi. » Alors, on comprend que le roi et toute sa cour étaient extrêmement inquiets. Et on le disait juste avant, le cœur du roi et le cœur de son peuple se mirent à chanceler, avec une belle image poétique et prophétique, j'allais dire. Le cœur du roi et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent. Donc le roi est extrêmement inquiet et le prophète est envoyé avec son fils, c'est assez amusant, pour réconforter, remonter le moral en fait du roi et de ceux qui l'entourent.
Alors, on pourrait dire un peu plus loin qu'il y a dans ce passage une prophétie. Alors, je ne sais pas si on peut dire une prophétie. Il est parlé du Messie, mais je crois que ce n'est pas la fine pointe de votre propos. En l'occurrence, dans ce passage, on sent, alors je ne sais pas si c'est ce que vous voulez souligner, mais on sent le roi Akaz trembler et quoi, un peu hésitant à écouter Yahvé et à le croire, à croire vraiment à ce que Dieu lui dit à travers son prophète.
C'est ça, pour que pour qu'Isaïe, avec son fils Shear Yashub, pour qu'Isaïe lui dise « Ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas », et il va même dire du mal des gens qui se sont coalisés contre lui, les appelant des deux bouts de tison fumant. Voyez, et Dieu fait dire au roi « Sois calme », et la leçon religieuse qui est là et qui est sans doute celle qui nous intéresse, « Crois non pas dans l'appui d'une puissance militaire » qui pourrait être un voisin d'ici ou de là, mais fait confiance à Dieu lui-même. Et en fait, c'est la clé, si vous voulez, la clé théologique de ce passage se trouve en Isaïe, donc chapitre 7, au verset 9, à la fin du verset. « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. » Alors, c'est vraiment l'invitation que nous pouvons entendre hein, pour nous, je crois. Une invitation à croire, c'est-à-dire à faire confiance en Dieu, à tenir en lui fermement, pour pouvoir tenir bon, se maintenir face aux difficultés. Alors, nous ne sommes pas tous des rois d'un royaume qui est menacé par une coalition venue du Nord, n'est-ce pas ? Par contre, tous, nous traversons des difficultés, et c'est intéressant de voir comment le prophète parle avec le roi en l'invitant à croire finalement à la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, nous revenons à la parole de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Le roi a envie de chercher un appui ailleurs. Le prophète lui dit en substance, il n'y a qu'une seule manière de traverser cette épreuve, et c'est de faire confiance à Dieu. Alors, est-ce que vous permettez que je fasse un peu d'hébreu avec vous ?
Oui, mais j'avais quand même une question. Alors, peut-être que la suite de votre réponse va éclairer cette question. C'est que ce qu'on peut se dire de prime abord, et peut-être est-ce pour ça parfois qu'on a du mal à prêter une oreille complètement attentive, même quand on est pratiquant au livre de l'Ancien Testament, c'est qu'on se dit... qu'est-ce que ce Dieu qui promet quelque part à ce roi la paix ou le triomphe sur ses ennemis, juste par la foi, n'y a-t-il pas aussi du bon sens de la part d'un roi de travailler à avoir des coalitions, des tactiques et à faire en sorte de pouvoir résister à l'ennemi ? L'un est-il exclusif de l'autre ou...
Sans doute pas, mais il faut bien dire que la Bible est plutôt un livre de théologie que d'histoire au sens contemporain du terme. Et donc nous touchons une question extrêmement importante pour qui veut travailler sur ces textes. On peut y trouver un certain nombre de références historiques fiables, et par exemple ce conflit, cette coalition syro-éphraïmite est documentée par ailleurs, et donc nous avons toute raison de penser que historiquement le contexte est assez juste. Ceci dit, s'il suffisait au roi de faire des prières ou aux personnes qui ont des responsabilités de croire en Dieu pour régler toutes les questions qui leur sont soumises, cela se saurait. On n'est pas dispensé d'être compétent dans son métier sous prétexte qu'on est un croyant.
Alors que cela signifie-t-il quand vous insistez surtout sur ce verset ? Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas.
Eh bien, c'est une des leçons fondamentales du texte biblique, et on retrouvera cela dans le Nouveau Testament, déjà avec l'histoire d'Abraham peut-être, avec ce verbe qu'on a traduit ici par « croire » et qui, à vrai dire, est issu aussi de la même racine verbale qui a donné « se maintenir », en tout cas dans la traduction que nous avons. C'est-à-dire que en hébreu, nous avons la racine, et que vos auditeurs connaissent, c'est la racine « aman » qui a donné, évidemment, à la première personne du singulier le verbe que les croyants disent souvent dans nos églises et puis aussi dans le judaïsme. Amen, c'est-à-dire je crois. Et ce verbe aman, qui a, nous disent les philologues, qui a quelque chose à voir avec la solidité, la fiabilité, dit quelque chose de la relation que chaque personne est invitée à avoir avec son Dieu. En l'occurrence, ici, c'est le roi, mais nous comprenons que l'intérêt de ce texte est bien plus large. Et en fait, le jeu de mots qui est fait ici dans la prophétie d'Isaïe, donc au chapitre 7, verset 9, c'est bien de dire « si vous tenez à Dieu, alors vous pourrez tenir dans les épreuves ». Il y a même l'une ou l'autre traduction qui dit « si vous ne tenez pas à moi, puisque c'est Dieu qui parle, vous ne tiendrez pas ».
J'avais une dernière question. Les prophètes parlent-ils tous de Jésus. Y a-t-il une annonce, en fait, du Messie ? Là, en l'occurrence, si on poursuit un petit peu dans le chapitre 7, il est dit « Voici, la jeune femme est enceinte et elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, etc. » Faut-il toujours voir en fond de la vie de ces prophètes quelque chose qui parle de celui qui est le Messie pour les chrétiens ?
Eh bien, quand on lit les prophètes dans l'Église catholique, on a effectivement cette habitude qui est une très bonne habitude, mais qui parfois pourrait nous conduire à faire subir des traitements un petit peu désagréables au texte. C'est-à-dire que dans ce cas, nous savons que les évangiles eux-mêmes ont relu ce texte en disant qu'il annonce la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai sous les yeux l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1 de saint Matthieu, juste avant que l'on évoque la naissance de Jésus à Bethléem, c'est Joseph qui accepte de prendre chez elle Marie, son épouse, à l'invitation de l'ange, et l'évangéliste précise, c'est Matthieu 1, verset 22, « Tout ceci advint pour que s'accomplit cet oracle prophétique du Seigneur, et on cite Isaïe, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils », et l'évangéliste ajoute, « Et on l'appellera du nom d'Emmanuel ». Et donc, il faut être prudent quand on lit les prophètes. On ne peut pas projeter à chaque fois la figure de Jésus en filigrane derrière, mais il est évident aussi que pour nous, chrétiens, et en particulier catholiques, eh bien, il y a un certain nombre de textes qui nous renvoient très clairement, et c'est d'autant plus indéniable quand l'Évangile lui-même fait référence plus ou moins explicitement, comme c'est le cas ici, à tel ou tel texte prophétique. Avec d'ailleurs une question exégétique qui n'est pas très facile, mais où on voit qu'en fait l'Évangile fait référence au texte grec d'Isaïe, où c'est l'annonce non seulement de la naissance d'un fils, mais d'une naissance mystérieuse, puisque c'est l'enfant d'une jeune fille vierge, ce qui, évidemment, pour le chrétien, est une invitation extraordinaire, enthousiasmante, à voir dans ce chapitre d'Isaïe une préfiguration, une annonce de la naissance de Jésus.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler du prophète Jérémie pour ce parcours biblique ce matin autour des prophètes et cette prochaine conférence, l'homme croyant selon les prophètes. Deux conférences pour rappel le 14 février, donc ce jeudi à 20h30 à la maison diocésaine Saint-Pierre et le 19 février prochain à 20h30 également, salle Léon XIII à l'Institut catholique de Toulouse.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'homme croyant selon les prophètes, c'est pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Cyprien Comte, prêtre du diocèse de Toulouse, formateur au séminaire interdiocésain de ce même lieu et enseignant à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. En vue d'une prochaine conférence du même titre qui sera donnée cette semaine donc à Rodez et la semaine prochaine à l'Institut catholique de Toulouse. Je redonnerai toutes les références à la fin. Ce matin, donc, cette promenade biblique avec comme illustration de ce que les prophètes ont à nous dire, deux passages, donc un passage dans le prophète Isaïe et un passage dans le prophète Jérémie. J'avais quand même, j'aime bien les questions d'introduction, hein, vous l'aurez compris. Cyprien Comte, si on lisait les Écritures en connaissant les prophètes et en croyant vraiment que Dieu parle ou a parlé par ses prophètes, notre foi serait-elle différente? J'entends par là, on peut se dire souvent que, quand on est croyant hein, et pratiquant, que lire les évangiles, quelque part, c'est suffisant, que Jésus était à sa manière un grand prophète, peut-être. Mais voilà, prendre au sérieux les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça changerait dans nos vies?
Oui, connaître les... J'ai envie de vous répondre deux choses. Je crois que connaître les prophètes nous aide, et pas seulement les prophètes, mais je dirais l'ensemble de l'Ancien Testament, qui pour les chrétiens, et en particulier pour les catholiques, est parfois vraiment souvent sur l'étagère, et parfois même avec un petit peu de poussière, malheureusement. Eh bien, connaître l'Ancien Testament, c'est nécessaire pour comprendre quelque chose au nouveau. Donc ça, c'est la première chose. Un des grands professeurs à l'Institut biblique des Jésuites à Rome disait que si on ne connaît pas l'Ancien Testament, on perd, je ne sais plus ce qu'il disait, 30% ou 50% du Nouveau Testament. Je ne dis que ça. La deuxième chose, c'est que prophètes...
Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de recul? Parce qu'il manque une culture biblique?
Oui. Parce que... il me semble que c'est vraiment de cet ordre-là. Et puis, on n'a pas l'arrière-fond culturel. On ne sait pas forcément aussi ce que savaient les premiers lecteurs et les auditeurs pour qui les évangiles ont été composés et qui pour beaucoup étaient des gens qui connaissaient assez bien les écritures de l'époque qui étaient évidemment les écritures qui sont notre Ancien Testament. Donc on a besoin de cela pour comprendre, et il y a sans doute encore bien des raisons hein, de lire, de connaître l'Ancien Testament qui dans la liturgie catholique est proposé presque tous les dimanches en première lecture. Donc c'est à écouter avec attention et même peut-être à méditer, à travailler. La deuxième raison pour moi de lire, de connaître, d'aimer les prophètes aujourd'hui, alors il y a des gens qui les liront parce qu'ils aiment la littérature et que de fait souvent c'est génial, quoique parfois difficile, il faut l'avouer, c'est que ce sont vraiment des hommes et des femmes, pour un petit nombre, des personnes qui portent une espérance. Et une espérance extraordinaire dont... Nous savons qu'elle s'accomplit dans le Christ Jésus, c'est ce que nous dit la foi chrétienne, il faut le redire, mais une espérance qui porte aussi au-delà et dont on se rend compte que si tout est accompli dans la théologie, dans la foi chrétienne, nous le savons, en Jésus, pour autant, nous n'avons pas encore tout accueilli, nous n'avons pas encore tout compris et encore moins vécu de cette espérance. Et il y a chez ces gens qui élèvent la voix souvent au cœur de situations difficiles, des ressources qui peuvent nous aider à traverser notre propre vie, pas toujours facile.
Alors, justement, illustration avec le prophète Jérémie, prophète très connu aussi de l'Ancien Testament. Voilà, homme d'une grande radicalité, ou en tout cas un appel très radical reposé sur lui. C'est peut-être le cas de toutes les vies prophétiques, mais vous nous expliquerez probablement que lui s'était particulièrement corsé. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de son arrestation et jugement de Jérémie. Dieu l'invite à prophétiser, je cite juste un passage, ainsi parle Yahvé, tiens-toi dans la cour du temple de Yahvé contre tous ceux des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple de Yahvé, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire, ne retranche pas un mot, et je vais vous laisser continuer, il y va pas de main morte, et la situation devient compliquée pour lui.
Le Notre cher Jérémie.
Histoire vraie, donc, pour les croyants, en tout cas.
Il va être confronté à l'adversité parce qu'il accomplit sa mission en essayant d'être consciencieux. Et à vrai dire, il est prévenu dès les premiers versets, hein, que vous avez lu dans le chapitre 26 de son livre, du livre qui porte son nom, parce que Dieu lui dit « Ne retranche pas un mot ». Je ne sais pas comment vous faites quand vous confiez un message à quelqu'un. Éventuellement, effectivement, on insiste en disant « Tu diras vraiment tout ce que je t'ai ordonné. Il n'est pas question que tu en notes quoi que ce soit. » Et nous pourrions rajouter entre parenthèses, j'espère ne pas faire d'hérésie en disant cela, ça pourrait être tentant d'enlever quelques mots parce que ce que tu vas dire est dangereux. Et en effet, Jérémie doit annoncer, nous le voyons dans le chapitre 26, annoncer que le Seigneur va traiter ce temple, c'est le verset 6, comme Silo, et Silo c'est un ancien sanctuaire non loin de Jérusalem, mais dont il ne reste que des ruines. Et donc Dieu menace, si le peuple ne se convertit pas pour observer l'alliance qu'il a conclu avec Dieu dans le passé, à l'époque de Moïse, si le peuple ne se convertit pas, eh bien Dieu détruira le temple. C'est en ces termes qu'il parle. Comprenez, ce n'est pas étonnant que Jérémie soit si mal accueilli par les gens à qui il adresse ce message.
Donc il se retrouve en procès, et il a tout le monde contre lui, les rois, les prêtres, le prophète. Il finit par sauver sa peau. Et ça dit aussi quelque chose aussi de l'ambiance profondément religieuse aussi dans laquelle se vivaient ces prophètes, n'est-ce pas là une différence majeure avec nous qui nous aide pas toujours à rentrer dans ces textes-là?
Le peuple d'Israël, quand il avant l'exil, donc, et nous sommes juste avant l'exil, hein, aux alentours, pour le dire à la louche, nous sommes aux alentours de l'an 600, et l'exil à Babylone.
Donc en deux mots, c'est quoi l'exil?
L'exil, c'est donc après la conquête de Juda et de Jérusalem par les armées de Nabucodonosor, roi de Babylone, les Judéens sont déportés en bonne partie, d'abord en 597, et puis pour la plus grande partie en 587. Et donc c'est la fin, en fait, de ce qu'on connaissait du royaume de Juda. Déportation massive, destruction du temple, la ville elle-même subit de grands dommages, il n'y a plus de roi. Et donc le peuple perd finalement presque tout ce sur quoi il reposait sa sécurité. Et donc en fait, menacé de la ruine du temple, les gens comprennent bien que c'est dire c'est la fin d'un monde, sinon la fin du monde. Alors en fait, les gens menacent Jérémie de mort. Il va se tirer d'affaire avec un discours extrêmement habile. Ce serait un petit peu long de le lire ici, mais le premier mot est intéressant, c'est au verset 12. Donc Jérémie 26, verset 12. Jérémie répond « C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre le temple et contre cette ville. » La défense du prophète, en fait, elle tient en un mot. C'est « Je n'ai pas inventé ce message ». Mais c'est Dieu lui-même qui vous adresse ces menaces. Et j'aimerais ajouter, parce que ça paraît quand même tragique, et ça l'est, ça paraît sans espoir. Au contraire, en fait, c'est un ultime message d'espoir, puisque Jérémie leur dit « Mais si vous acceptez d'écouter, et si vous vous convertissez, alors il est possible que Dieu renonce à ce châtiment qu'il prépare pour vous. » Finalement, Jérémie ne sera pas tué. On a sans doute le fin mot de l'histoire d'un point de vue purement humain au dernier verset, parce qu'on voit qu'il a en fait un soutien assez influent. Des gens se sont portés témoins en sa faveur. Finalement, on n'est pas vraiment sûr que ça ait servi à quelque chose, ou même que son discours ait été entendu. Il est possible quand même que les gens se soient dit mais la Bible ne le rapporte pas, c'est peut-être un vrai prophète, et alors nous risquerions, comme il l'a dit d'ailleurs, de nous charger d'un sang innocent si nous le mettions à mort.
Et alors quelle leçon pastorale pour... quelle leçon pour nous, pardon,
lecteurs
du XXIe siècle, qu'est-ce que ça nous dit que Dieu est notre ultime rempart
Il s'agit bien de cela, et puis il s'agit aussi de cette foi et cette conviction que le prophète a d'avoir entendu la parole de Dieu et d'être chargé de la porter, quoi qu'il en coûte. Et il sait aussi que Dieu le protégera. Et dans notre vie de croyant, c'est tellement important, et nous pouvons le fortifier cette conviction, peut-être en relisant le récit de la vocation de Jérémie, qui est au chapitre 1 du livre, et où nous avons les promesses de Dieu à Jérémie. Il est soumis à l'épreuve, y compris dans sa foi, mais finalement, son argument, c'est de dire, voilà, le Seigneur m'a envoyé, c'est le Seigneur qui m'a envoyé, et il se rappelle, voilà, ce que Dieu lui avait dit, hein, dès le début de sa vie prophétique, « Tu iras vers tous ceux à qui je t'envoie, et tu auras la charge de détruire et d'arracher, mais aussi de bâtir et de planter. » Donc, pour nous tenir bon dans l'épreuve, c'est comme le prophète, savoir que Dieu nous donne une mission.
Tenir bon dans l'épreuve, en étant parfois une parole de contradiction. Je ne veux pas forcément faire un lien d'actualité avec une affiche que vous avez sur votre agenda, mais qu'est-ce que vous verriez comme parallèle avec notre histoire actuelle, où de temps à autre, les croyants sont amenés à rendre témoignage et se sentent bien exposés?
C'est vrai que c'est souvent difficile de porter témoignage de sa foi. Nous sommes prévenus, ceci dit, que celui qui est comme Jésus sera peut-être persécuté comme lui, ou même sûrement, dans les domaines de la justice sociale. Je crois que les chrétiens continuent à avoir à parler. Il n'y a pas seulement la bioéthique, mais c'est vrai que c'est peut-être évident que l'Église parle souvent de ces sujets et qu'il faut qu'elle continue à le faire avec beaucoup de respect. Et je crois qu'il s'agit finalement d'une seule question qui est au bout du compte de prendre sur nous pour protéger les plus petits, quoi qu'il en coûte.
Difficile dans certains sujets, en l'occurrence si on parle des révisions des lois de bioéthique, je vous dis ça de la part de Dieu, c'est le meilleur moyen parfois d'énerver encore plus l'adversaire.
Non,
c'est...
Et nous ne sommes pas forcément obligés de dire, parce que nous ne vivons pas au 6e siècle avant Jésus-Christ, que nous le disons de la part de Dieu. Il nous faut trouver aussi les arguments qui peuvent être entendus.
Voilà, on ne vit pas au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais on peut y trouver quelques leçons de sagesse. La suite, on va dire, de l'émission, rendez-vous est donné donc pour cette conférence biblique, ce jeudi 14 février à 20h30 à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez, et le 19 février prochain à 20h30, salle Léon XIII à l'Institut catholique de Toulouse. Si cette émission vous a intéressé, ne soyez pas intimidé. Le Père Cyprien Comte est tout à fait accessible et on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour venir assister à une conférence biblique, n'est-ce pas?
J'espère.
Merci beaucoup, Père Cyprien Comte. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.